Bienvenue sur le podcast Moana. Je suis Terry, maman de 3 enfants, l'aîné Noah qui a 10 ans, la cadette Ayana qui a 6 ans et notre petite dernière Théa qui a tout juste 6 mois. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine de l'automobile et à côté, je me passionne pour plein de domaines comme la décoration d'intérieur, l'immobilier et la parentalité. C'est d'ailleurs de ce dernier dont je vais vous parler ici sur ce podcast, qui est une sorte de cadeau que je me fais pour célébrer mes 10 ans de maternité. Moana est le nom que j'ai souhaité donner à mon blog lors de sa création il y a quelques mois. Il s'agit en fait de la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que je souhaite faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle, l'ewondo. Une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Pour ce podcast, j'aurai l'occasion de recevoir des mamans et des papas qui viendront partager avec nous leurs expériences parentales. Et oui, des papas aussi. En effet, je trouve que ces derniers sont encore peu interrogés sur la question de la parentalité. Cela me tenait à cœur de pouvoir recueillir aussi leurs expériences et anecdotes sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Les restrictions actuelles nous obligent à enregistrer à distance. Il est donc possible que la qualité de son ne soit pas irréprochable. Je vous prie de m'en excuser d'avance. Dans la continuité de notre série sur l'instinct, l'intuition, je vous donne un petit rappel de définition. L'instinct vous fait agir avant que vous n'ayez eu le temps de réfléchir. À l'inverse, l'intuition vous fait d'abord prendre conscience de certaines choses, et ensuite, vous pouvez décider d'agir de la manière qui vous semble la plus appropriée. Plus de 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année dans le monde, soit près d'un bébé sur 40. Dans cet épisode, je reçois Marine. Je connais Marine depuis plusieurs années maintenant. En fait, nous avons fait une partie de nos études ensemble. 2020 a été une année particulière pour chacun d'entre nous. Et pour Marine, cela restera certainement une année qu'elle n'oubliera jamais. En mai, on nous annonçait le déconfinement, et Marine, elle, apprenait qu'elle portait de nouveau la vie en elle. Des vies, en fait. Elle nous raconte comment son intuition lui a prédit deux bonnes nouvelles. Bonne écoute. Bonjour Marine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Avec plaisir. Merci à toi de me l'avoir proposé.
Écoute, tu faisais partie des mamans que je voulais absolument recevoir pour ce podcast.
Ah, mais c'est bon, ça me touche.
Parce que pour la petite histoire, Marine et moi, on se connaît, puisqu'on a fait une partie de nos études ensemble quand même. J'ai voulu donc te recevoir aujourd'hui. Marine, comme tu le sais, je demande à chacun de mes invités de choisir une citation qui aura pour but d'illustrer donc l'histoire qui sera racontée. Peux-tu me dire donc la citation que tu as choisie?
Moi, j'ai choisi une citation d'Audrey Hepburn, qui est accessoirement mon actrice préférée, qui dit « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'on ne peut pas montrer. » Qui est accessoirement aussi la citation de Baby Boom.
Oui, tout à fait. Ok, très bien. Écoute, hâte d'écouter donc l'histoire pour comprendre cette citation. Peux-tu du coup te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais?
Du coup, je m'appelle Marine, j'ai 29 ans, je suis l'heureuse maman de 3 petits garçons, donc Tom qui a 2 ans et demi. Et Malo et Noé qui ont 2 mois, un peu plus de 2 mois.
Wow. Voilà.
Donc, j'habite en Bretagne depuis presque 6 ans.
Ok. Déjà.
Déjà. Ouais, ça va vite, ouais.
C'est clair.
Et puis voilà, je suis en concubinage depuis presque 7 ans. Du coup,
d'accord.
Avec mon amoureux. Voilà.
Ok. Écoute, tu nous as parlé donc de Tom, donc qui a 2 ans et des deux petits tout nouveau-nés. Écoute, raconte-nous comment ça s'est passé pour
Bah, cette grossesse gémellaire, déjà, comment est-ce que tu l'as appris? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, du coup, bah, on était confinés,
Oui.
comme beaucoup de monde l'an dernier. Et
Oui.
en fait, c'est vrai qu'on avait en projet de faire un deuxième enfant, mais pas tout de suite. En fait, on s'était dit, on va laisser arriver la rentrée pour se dire que du coup, bah, j'accoucherai là à l'été 2021 pour que Tom rentre à l'école et que du coup, tout se goupille plutôt bien pour nous, quoi. Et puis, tout bêtement, j'avais un peu de retard. Et je dis à Teddy, bon, bah, je veux quand même faire un test comme ça, histoire de m'enlever le doute
Le
éventuel d'une
doute.
grossesse. Et il s'avère que bah, le test a été positif. Donc au début, ça a été un petit peu la panique parce qu'on s'était dit, moi dans ma tête, j'ai très vite calculé à temps. Donc du coup, enfin, je suis tombée enceinte en mai, donc ça va tomber au mois de février. Au mois de février, je comptais avec mon congé mater, ça veut dire reprendre en mai, ça veut dire payer deux nounous en même temps. Sauf que bah, nous, on est très attachés à notre nounou et notre nounou n'avait pas de place. Donc je m'étais dit, bah, comment on va faire pour gérer tout ça.
Pour gérer, oui.
Donc ça a été le premier truc, quoi. Pour la petite histoire, c'est pas très beau, mais quand j'ai dit, bah, t'as dit quand mon test avait été positif, je lui ai dit, bon, mon chat, on est dans la merde.
Ah non, mais je te
Voilà, alors
comprends, hein.
que. Parce que, en fait, moi, j'ai tout de suite pensé au côté
Organisationnel.
organisation de la vie de famille.
Bien sûr.
Et puis, voilà, se dire que c'est pas du tout ça. Et en plus, Teddy ne voulait pas de bébé d'hiver. Je ne sais pas pourquoi il voulait des bébés d'été, lui.
D'accord.
Donc, du coup, voilà. Et ensuite, quand je l'ai appris, je n'ai pas du tout pensé qu'il pourrait être deux pour la simple et
Oui.
bonne raison que nous n'avons pas de jumeaux dans notre famille.
Ah bah c'est une
Donc,
question que je comptais te poser. En fait,
ouais.
déjà, comment est-ce que tu as appris que c'était une grossesse gémellaire?
Alors, ce qui est très drôle, je ne sais pas si c'est encore une fois l'intuition maternelle ou pas,
Ouais.
mais peut-être une semaine après que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai dit à Teddy, je suis sûre qu'il y en a deux.
Wow.
Je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée qu'il y en a deux. Et Teddy me dit, c'est impossible qu'il y en ait deux, on n'a pas de jumeaux dans notre famille, il n'y a aucune raison. Qu'il y en ait deux. En plus, c'était complètement bah, naturel. Donc, il n'y avait pas de raison apparente qu'il soit deux. Donc, j'en parle à ma mère, j'en parle à mes collègues de boulot. Donc, tout le monde me dit, mais non, mais t'inquiète, ce n'est pas possible. Il n'y en a pas deux. Voilà, tu as une intuition bizarre, quoi. Enfin, pas bizarre,
Ouais.
mais voilà, c'est pas ça, quoi. Et en fait, même sur ma prise de sang, mes taux étaient élevés.
Ouais.
Mais bon, après, comme on dit souvent, quand c'est une deuxième grossesse, tu as plus d'hormones de grossesse
C'est ça.
plus vite. Et puis, ma grossesse précédente étant quand même pas très éloignée de celle-ci, le corps a une mémoire. Donc, du coup, il aura pu se souvenir que c'était ça. Et pour la petite histoire, quand j'ai dit à mon médecin que, pareil, je pensais qu'il y en avait deux, et qu'elle a vu le résultat de ma prise de sang, elle, en fait, elle pensait à complètement autre chose. Elle pensait que justement, en fait, l'œuf était mal implanté. Parce
Ah,
que c'est
d'accord.
possible que quand l'œuf soit mal implanté, en fait, dans l'utérus, il y ait plus d'hormones de grossesse et que ça se voit, ça se traduit comme ça à la prise de sang.
D'accord.
Donc, en fait, tout le monde me disait vraiment qu'il n'y avait aucune chance que j'aie des jumeaux.
Ouais. Mais toi, tu y croyais, quoi. Toi, tu le sentais, tu le ressentais et voilà. Tu étais sûre de toi.
En fait, j'avais cette impression qu'il y en ait deux. Et au fond de moi, j'espérais me tromper.
Ah.
C'est très bizarre. C'est complètement
Oui,
contradictoire.
finalement, c'est ça.
Je savais qu'il y en avait deux et pourtant, je priais, entre guillemets, pour me tromper.
Oui.
Je peux pas vraiment l'expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que ça me faisait peur, en fait. Et donc, le 22 juin, j'avais rendez-vous donc pour l'écho de datation.
Oui.
Et avec une sage-femme. Et quand on a fait le rendez-vous, je lui ai dit, vous allez voir, vous allez me dire qu'il y en a deux. Donc
Incroyable.
pareil, elle me questionne, etc. On me dit, enfin, elle pensait que j'avais déjà fait en fait une écho une écho avant celle-ci. Je lui dis non, non. Je lui dis, mais au fond de moi, je suis persuadée qu'il y en a deux. Qu'il y en a deux. Donc, pareil, elle me dit, oui, mais si vous n'en avez pas dans votre famille, vous savez, il n'y a pas de raison que vous en ayez là, surtout que ce n'est pas une... c'est une grossesse spontanée. Y a
oui,
pas
spontanée.
De... Voilà, il n'y a pas de jumeaux dans votre famille, etc. Donc, vraiment, faut... enfin, ça serait étonnant.
Mm-hmm.
Et donc, on s'installe pour l'échographie. Elle allume le truc, elle me pose l'échographie sur le ventre.
Oui.
Et là, j'explose de rire. J'explose de rire et elle, hyper étonnée, et je lui dis, vous voyez ce que je vois? Et elle me dit, oui, oui, je vois ce que vous voyez. Et en fait, très clairement, quand elle a posé tout de suite l'appareil sur mon ventre, on voyait en fait les deux petites poches avec les deux embryons.
C'est incroyable.
Elle n'a même pas eu besoin de chercher ou...
Ah oui, non, mais c'était clair.
En fait, c'était clair et net, il y en avait deux. Incroyable. Donc, elle a regardé du coup si on n'avait pas un troisième. Et après, en fait, avoir ri nerveusement, j'ai un petit peu pleuré devant elle. Mais bon, j'accusais le coup. Et elle m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait que quelqu'un lui annonce qu'il en avait deux avant même d'avoir fait une écho.
Non, mais faut y croire. Hein. Moi, je crois beaucoup au ressenti des mamans là-dessus. Enfin, c'est... Je ne sais pas, je pense qu'on doit avoir peut-être un pouvoir qui est encore un peu incompréhensible pour le commun des mortels, mais vraiment, l'intuition, c'est réel, vraiment.
Ah oui, oui, et puis je trouve qu'encore plus en étant enceinte, je pense que notre corps, il nous envoie beaucoup de messages, entre guillemets, et puis après, on arrive à les interpréter ou pas, mais... Mais je sais qu'en tout cas, celui-là, il était clair dans ma tête. Et c'était clair que, qu'il y en avait deux, quoi.
Deux.
Mais au fond de moi, j'espère vraiment qu'on me dise l'inverse. C'est très, très bizarre.
Comme,
je peux pas vraiment l'expliquer. Donc, elle m'annonce qu'il y en a deux.
Oui.
Et là, tout de suite, quand elle voit ma réaction, donc rire nerveusement et un peu pleurer, elle me dit « Oui, mais vous savez... comme toute grossesse, il y a un risque, encore plus accru en fait quand c'est des grossesses multiples.
D'accord.
Donc, vous emballez pas trop, vous avez des risques d'en perdre un, de faire une fausse couche en fait sur un.
Ok.
Et là, en fait, c'est très bizarre parce que la sensation est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'en rentrant, je savais qu'il y en avait deux et j'espérais me tromper.
Mm-hmm.
Et là, quand on m'a annoncé que peut-être en fait cette grossesse finirait en grossesse unique, pour moi c'était inconcevable.
Bah oui.
Maintenant qu'en fait je les avais vus, mm-hmm. qu'il y en avait deux, pour moi c'était plus possible en fait d'imaginer cette grossesse avec un seul enfant.
Bah oui.
C'était plus possible de la concevoir autrement en fait.
C'est ça.
Et à partir de là, ça a ouvert la porte à énormément d'inquiétudes.
D'inquiétudes, j'imagine.
Que j'avais pas ressenti pour ma première grossesse, pour la simple et bonne raison que là, tout de suite, elle m'a dit c'est suivi à l'hôpital, vous serez suivi, vous aurez deux rendez-vous par mois, une échographie tous les mois. Bon, ça, c'est le côté sympa de la grossesse de mère. Mais voilà, c'était très médicalisé. Entre guillemets, j'avais pas le choix que d'être suivi de cette façon-là.
D'accord.
Donc, moi, tout de suite, c'est ça qui m'a fait peur, c'est le côté très médical de la chose, où entre guillemets, ça perdait un peu, à mon sens, tout le charme de la grossesse.
Ouais, c'est ça, oui, c'est finalement.
Regarder cette grossesse-là que d'un point de vue totalement médical.
Médical.
Et un peu enlever tout le côté un peu magique qu'il peut y avoir autour d'une grossesse, quoi.
Bah oui, effectivement, ouais. C'est vrai que on en a tellement rarement encore, faut le dire, hein, même si c'est vrai que ça arrive, on a l'habitude que ça arrive un peu plus quand on fait des FIV ou des PMA. C'est vrai qu'on a souvent ce phénomène-là qui arrive de grossesses multiples, en tout cas. Mais c'est vrai que ça peut encore arriver de façon tout à fait naturelle. Alors, parfois, il y a les facteurs génétiques dans l'histoire, mais c'est vrai qu'aussi, ça peut arriver qu'effectivement, il n'y en ait pas forcément. Et donc, ça a été le cas pour toi.
Exactement. Et surtout qu'en plus, faut savoir que moi, j'ai appris énormément de choses sur la grossesse gémellaire.
Forcément. Oui, forcément.
Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas.
Ouais.
Et il y a énormément d'idées reçues qu'on a qui ne sont pas vraies.
Mmh.
Donc,
est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes d'entre elles?
Bah, par exemple, moi, j'avais ce qu'on appelle, donc ce qui est le mieux pour une grossesse gémellaire, j'avais une grossesse bibi, c'est-à-dire bicoriale et biamniotique. Donc, ils avaient
D'accord.
chacun leur poche et ils avaient chacun leur placenta.
D'accord.
Donc, en fait, il y avait moins de risques qu'il y en ait un qui soit beaucoup plus gros que l'autre, et donc du syndrome qu'on appelle transfuseur-transfusé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui pique tout à l'autre.
D'accord.
Déjà là-dessus, j'avais pas de risque de ça. Et donc, du coup, pour le commun des mortels, bah, c'est forcément des faux jumeaux, puisqu'ils ont
Bah
deux
oui,
poches.
ils
Mais c'est pas
sont
vrai, en
des
fait.
pages différentes. Ouais.
Voilà, en fait, c'est la première idée reçue des gens qui se disent c'est ça. C'est
D'accord.
qu'en fait, il y a des poches, c'est forcément des faux jumeaux. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas encore si c'est des vrais ou des faux, pour la simple bonne raison que pour ça, il faudra qu'on fasse un test génétique et là, ils vont très bien et il n'y a pas de raison qu'on en fasse un. Et surtout que dans quelques mois, on sera fixé à savoir s'ils continuent de se ressembler ou pas. Là, c'est vrai ils se ressemblent quand même fortement.
Oui.
Et voilà, si d'ici 6 mois, ils sont toujours pareils, oui, bon, bah, là, il n'y aura pas de doute
De tout, oui.
que ce sont des vrais jumeaux. Et si jamais ils commencent à se différencier de plus en plus, on saura que c'est des faux jumeaux. Après, et à l'inverse, pour le commun des mortels, en fait, ce sont les vrais jumeaux qui ont des facteurs génétiques.
Oui.
Alors qu'en fait, non, c'est l'inverse.
D'accord.
C'est les faux jumeaux qui sont génétiques. Et les vrais jumeaux, en fait, ils ne savent toujours pas en fait, expliquer pourquoi les cellules, l'embryon décide de se diviser en deux.
D'accord.
Ça, aujourd'hui, en fait, les chercheurs ne peuvent toujours pas l'expliquer. Donc, en fait, génétiquement parlant, ce sont les faux jumeaux, ou c'est génétique.
D'accord. Ah,
C'est
c'est
ça,
vrai
les
que
vrais
oui,
jumeaux.
c'est
Il y a
pas.
plein de... Non, non, mais c'est... Enfin, voilà, il y a plein d'idées reçues qu'on a, en fait, dessus, et moi, la première. Hein,
Ah oui, mais moi aussi, hein,
mais en fait,
complètement. Pourtant, j'ai des jumeaux dans la famille. Ouais.
c'est tellement méconnu que, en fait, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Donc, non, c'est un sujet très intéressant.
Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, donc tu sors de cette du rendez-vous avec pour faire ton échographie. Donc tu découvres que tu as des jumeaux et comment tu l'annonces à ton conjoint finalement?
Je l'appelle en rigolant et je lui dis que j'avais raison.
Ouais.
Donc, lui, en fait, tout de suite, il a été super content.
Ah,
Et
ouais.
après, j'ai pleuré. Et il m'a dit que non, non, ça allait le faire, qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne s'en sorte pas, que ça allait être dur, parce que du coup, on allait se retrouver avec 3 petits en bas âge en même temps.
C'est ça.
Mais que l'avantage, c'est qu'il serait grand aussi en même temps, et qu'une fois qu'on serait sorti des 3 ans, entre guillemets, difficiles, ce sera que du plus pour nous, quoi.
Du plus, exactement.
Donc, je raccroche avec lui, j'appelle ma mère. En pleurs. Je pense
Oui.
qu'auprès de ma mère, j'ai vraiment tout le stress, toutes les inquiétudes que j'avais parce que je m'étais pris en fait un flot d'informations entre les suivis médicaux à l'hôpital, le fait que je puisse en perdre un, donc finalement, en fait, il n'y en aura plus qu'un bout, le fait d'apprendre que mon intuition était bonne. Voilà, j'avais énormément de choses qui se mélangeaient dans ma tête. Et qui était au final sans réponse à ce moment-là parce que je ne savais pas où j'allais en fait. Donc j'avais peur d'énormément de choses. Du coup, j'avais peur de l'accouchement. Je m'étais dit que c'était un accouchement de jumeaux, c'était forcément par césarienne. Enfin voilà,
Ah
en quelques secondes, en fait, je m'étais fait tout un film dans ma tête qui était en fait loin d'être
Ouais,
la
toutes les
vérité.
inquiétudes qui remontaient, quoi.
Voilà, et il fallait que je gère ça. Surtout qu'en plus, entre le moment où je l'ai su et ce moment-là, les symptômes de grossesse, forcément, pour des jumeaux, c'est pire.
Ah,
Donc, c'est-à-dire qu'en plus, j'étais dans une période compliquée parce que je passais mes journées à vomir.
Ah mince, oui.
J'étais extrêmement fatiguée. D'un côté, je voulais aussi, ben, forcément, il fallait que je gère Tom et je ne voulais pas lui montrer en fait, que j'étais pas bien. Mm-hmm. Et voilà. Et c'est vrai que les premières semaines ont été psychologiquement un peu compliquées. Mm-hmm. D'accepter la chose, plus en fait d'accepter mon état.
Ton état, c'est ça.
C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au démarrage.
Et quand tu dis qu'au niveau des symptômes, pour une grossesse GMR, c'est beaucoup plus accentué, c'est-à-dire, alors tu avais beaucoup plus de nausées qu'habituellement, que la précédente en tout cas.
Ah oui, pour Tom, j'avais eu que des nausées. J'avais dû vomir une fois ou deux, mais voilà, c'était des nausées, ça passait, je mangeais un petit peu, ça passait. Là, je mangeais quelque chose, il ressortait aussi vite qu'il était rentré, quoi.
Et tu penses vraiment que c'était lié au fait que ce soit une grossesse gémellaire? Parce que alors, c'est vrai qu'on dit que toutes les choses ne se ressemblent pas et que bon.
Non, effectivement, c'est pas. Enfin, toutes les grossesses gémellaires ne traduisent pas comme ça. Disons que quand ce que m'a expliqué ma gynéco, c'est que souvent, quand tu as été malade lors d'une de tes grossesses, surtout quand c'est la première, souvent celle d'après, bah, elle se ressemble un peu, quoi.
Ouais.
Et en fait, le fait d'avoir deux bébés, forcément, tu as deux fois plus d'hormones de grossesse. Donc, tes symptômes sont deux fois plus importants. Donc, moi, mes grossesses, visiblement, je dois les passer à être malade. Bah, forcément, là, pour deux, j'étais deux fois plus malade que pour Tom tout seul. Donc, ça a été... ça a été compliqué. En plus, je travaille dans le paramédical maintenant. Donc, quand il y a des patients qui arrivaient, que tu les regardes et que tu leur dis « Je reviens ». Je vais vomir et puis je vous reprends après. C'est compliqué, c'est pas possible. Du coup, j'étais absolument pas performante au travail, ce qui m'énervait d'autant plus parce que c'est pas dans mon caractère. Et puis, c'était difficile, quoi. Je pouvais pas aller me promener parce que si j'étais malade, c'était compliqué. Donc, Teddy gérait énormément de choses à la maison parce que moi, j'étais en fait claquée, quoi. Je
dormais pas
la nuit. Je passais ma journée à vomir. Donc, forcément, ton corps, il te lâche un peu, quoi.
Bah oui.
C'était un petit peu compliqué.
Et du coup, au bout de combien de mois, tu as commencé à te sentir un peu mieux pour, appréhender un peu mieux cette grossesse?
Si tu veux, déjà, j'ai au bout d'un moment, j'ai décidé quand même de me faire aider, quoi.
Ouais.
C'est bien d'être, de vouloir encaisser beaucoup de choses, sauf que quand ça te rend ton quotidien difficile, à un moment donné, il faut chercher de l'aide.
Ouais.
Donc, je me suis rendue vers mon médecin qui m'a mis sous un traitement qui a très bien fonctionné, dans le sens où je vomissais plus que le matin quand je me levais.
D'accord.
Parce que pour moi, c'était quand même un peu...
Beaucoup plus allégé.
Un peu une réussite, quoi. Et puis après, ça s'est étalé une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours. Et puis, je dirais, au milieu du deuxième trimestre, c'est passé, quoi.
D'accord.
Au milieu du deuxième trimestre, j'avais plus cette envie de vomir. J'avais toujours des hauts de cœur. Ça, des hauts de cœur, j'en ai eu jusqu'à mon accouchement. Mais sur certaines choses... Mais en tout cas, le fait de vomir en soi, je ne l'avais plus du tout.
Donc là, au bout de ce deuxième trimestre, c'était quand même un peu plus agréable pour pouvoir appréhender au mieux cette grossesse. J'imagine que tu as commencé à vraiment... déjà, ça a commencé à se voir.
En fait, ça s'est vu hyper rapidement.
Ouais.
Dans le sens où je ne sais pas si c'est du fait que c'était ma deuxième grossesse ou du fait qu'il soit deux, mais j'ai eu du ventre super vite. C'est-à-dire que j'ai des photos de mi-juillet, donc tu vois, j'étais enceinte de 2 mois, tu avais l'impression que j'étais enceinte de 5, quoi. Ouais. Je ne pouvais plus le cacher.
Je me rappelle pas possible. Des quelques photos que tu avais postées.
C'était hallucinant, quoi. Donc bon, ils étaient là, hein. Moi, ça me dérangeait absolument pas, mais... C'est vrai que c'est arrivé très vite, très très vite. Et c'est aussi durant ce deuxième trimestre-là que j'ai su que c'était deux garçons.
Ouais. C'est ce que tu voulais? Enfin, tu avais une envie particulière ou
Alors, j'avais pas d'envie, mais là où le corps, tu vois, nous envoie pas toujours les bons signaux, j'étais persuadée que c'était un garçon et une fille.
Ah, ouais.
Donc, avec le recul, je sais pas en fait si j'étais persuadée que ce soit un garçon et une fille parce que je voulais une fille.
Oui.
Ou si c'est vraiment mon corps qui m'envoyait ce message-là. Tu vois, je sais pas. Je pense aujourd'hui que, bah forcément, c'est psychologique, c'est pas mon corps puisque c'était deux garçons. Mais j'étais persuadée en fait que c'était des faux jumeaux et j'étais persuadée qu'il y avait un garçon et une fille. C'est pour ça que je n'envisageais absolument pas le fait d'avoir deux garçons. Pour moi, c'était pas possible quoi.
Ouais.
Je savais que c'était pas possible. J'hésitais tu vois entre deux filles et un gars et une fille, mais j'étais plus sur un gars et une fille, tu vois.
Ouais.
Et en fait, ben non. Ce qui a été difficile.
Ah.
Faut le dire. Hein. Mm-hmm. Quand je l'ai su, ben, j'ai passé ma soirée à pleurer.
Ah oui, quand même.
Pas parce que c'était deux garçons, ils étaient en très bonne santé. Hein, il y avait
bien sûr.
Mais parce que je me suis dit, ma cocotte, tu vas te retrouver avec trois petits gars, tous petits en même temps, avec tous le même âge quasiment. Enfin, voilà, deux ans d'écart, c'est rien. Hein,
c'est rien du tout. Rien du tout.
Et là, je me suis dit, tu vas en chier. C'est vraiment un terme vulgaire, mais... Je me suis dit, tu vas en suer. Là, tu vas. Tes prochaines années, elles vont être sportives.
Mmh.
Et en même temps, comme je savais que je ne voulais pas d'autres enfants, enfin que déjà, on n'en voulait que deux, et le fait qu'il y ait un troisième, c'est du plus. Je savais que voilà, je ne repartirais pas dans une grossesse.
D'accord.
Ce jour-là, j'ai aussi dû faire le deuil de ne jamais avoir de fille.
Aussi.
Et c'est un sentiment qui est hyper particulier parce que tu me connais, je suis quand même mon côté féminin est quand même assez exacerbé, enfin voilà, c'est plein de enfin voilà, et je me suis dit tous ces moments là que moi j'adore dans ma vie de fille, enfin de ma vie de femme, je pourrais pas les partager avec ma fille. Alors ça se trouve je les partagerai avec l'un de mes fils, hein, j'ai aucun problème avec ça.
Tout à fait, oui.
Mais voilà, mon premier sentiment ça a été celui-là, ça a été de me dire en fait, c'est, ça s'arrête là et en fait j'aurais pas de fille quoi, j'aurais pas de petite moi. À qui je pourrais faire détresse, quoi. Bon, ça se trouve, je l'ai fait à l'un de mes garçons, hein, ça ne pose pas de soucis.
Ou à une nièce ou quoi, mais oui, il a fallu que tu
fasses... Voilà, ou à mes nièces. Ouais. Mais moi, en tout cas, voilà, je n'aurais pas de fille, quoi.
C'est ça.
C'était ça. Et puis, voilà, ça m'a duré une soirée, et puis...
Et puis après...
Et puis, c'était passé, quoi. Le lendemain, c'était... c'était bon, j'avais accepté l'idée, hein, de toute façon.
C'est ça, et puis l'essentiel aussi, c'est que quelque part, tes deux bébés en pleine santé, quoi.
Voilà, c'était ça. C'était ça, le principal, c'était que eux aillent bien, que tout le monde aille bien, que tout se passe bien. C'était surtout ça, et puis le reste, pour moi, après, c'était juste... c'était devenu éphémère, quoi.
Oui.
Et je sais que mon gros soutien, forcément, ça a été mon conjoint, hein. Qui m'a épaulé, qui m'a dit mais on va s'en sortir, même si c'est dur, oui, ça va être dur, mais on le sait, on va s'y préparer, puis on est solide, ça va le faire.
Ouais.
Donc c'est lui qui m'a vraiment aidé aussi là-dedans et qui m'a fait relativiser aussi beaucoup, beaucoup toutes ces questions-là de me dire j'aurai une j'aurais que des garçons,
famille des garçons,
c'est pas grave, en fait. Voilà, c'est ça. Je serai la seule fille et puis c'est tout aussi bien, en fait.
Enfin,
voilà, maintenant que c'est comme ça, c'était juste que ça devait être notre schéma familial et que les choses devaient se passer de cette façon-là.
Oui.
Et puis voilà, une fois que je l'ai accepté, après c'était bon.
Ok. Et alors, donc tu as été au bout de cette grossesse, À combien de semaines est-ce que tu as été jusqu'à ton terme?
Alors, il faut savoir que, pareil, pour une grossesse gémellaire, le terme n'est pas la même. C'est-à-dire que pour une grossesse classique, c'est 41 semaines. Un terme pour une grossesse gémellaire, c'est 39.
D'accord.
Donc déjà, je savais qu'au-delà de 39 semaines, je n'irais pas. Et puis, en fait, autant toute ma grossesse s'est très, très bien déroulée. Il n'y a pas eu de souci particulier au niveau de la santé des bébés, etc. Sauf qu'à la fin de ma grossesse, ils ont suspecté au départ une pré-éclampsie.
Ah.
Et en fait, ce n'est pas ça que j'avais. J'avais un truc que je ne connaissais absolument pas. Je faisais une cholestase gravidique.
Alors là.
Donc, en gros, c'est, moi non plus, hein, c'est un terme que je ne connaissais pas.
Explique-moi ce que c'est, parce qu'alors là.
En fait, c'est quand ton. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quand ton foie ne régule plus la bile.
Ah.
Je crois que c'est un peu ça. Et quoi, du coup, en fait, elle se transporte dans ton sang. Et le problème, c'est que si elle se transporte dans ton sang, bah, elle se transporte dans le placenta. Alors, pour les mamans, ce n'est absolument pas grave.
D'accord.
Mais en fait, ça peut causer des décès in utero des bébés.
D'accord.
Donc, si tu veux, quand c'est comme ça, ils ne prennent pas de risque. Mm-hmm. Et puis, les symptômes, c'est des démangeaisons le soir au niveau des mains et des jambes.
D'accord.
Et puis après, bah, ça se voit très rapidement sur les prises de sang. Bah que tu as un taux ta bile, elle est dans ton sang, elle est en trop grosse quantité, quoi.
D'accord.
Donc,
ils te découvrent ça, et puis en fait, c'est ce qui déclenche l'accouchement, finalement.
Ouais, exactement. En fait, c'est ça. Donc, j'ai fait toute une batterie d'examens pour ça. Et puis, du coup, j'arrivais à 37 semaines et ils me disent, bon, écoutez, là, vous êtes à terme. Donc, du coup, on ne va pas prendre, on va pas attendre, on va vous déclencher à 37 semaines plus 1.
D'accord.
Donc, j'ai été convoquée à l'hôpital, en fait, comme mon col était fermé.
Oui.
Ils m'ont convoquée le jeudi soir pour me poser, en fait, ce qu'on appelle un ballonnet, c'est ça. Donc, c'est un petit truc, en fait, qui mettent dans le col de l'utérus. Et puis, ça se gonfle comme un ballon pour l'ouvrir et pour déclencher les contractions. Et ils devaient me déclencher ensuite par ocytocine le vendredi matin.
D'accord.
Et en fait, on a eu la bonne surprise en arrivant le jeudi soir que mon col soit déjà ouvert à deux. Donc, du coup, ils n'ont pas eu besoin de poser le ballonnet. J'ai dormi quand même à l'hôpital. Et puis, ils devaient toujours me déclencher le lendemain. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas mise en travail seule. Ils ont dû m'aider. Mais ils ont commencé, en fait, au lieu de me mettre de l'ocytocine, en me perçant la poche des os, donc de l'aîné, donc de Malo, le J1, et de voir, en fait, comment mon corps allait réagir. Et il s'avère que mon corps a plutôt bien réagi et ils ont dû m'injecter, en fait, une toute petite dose d'ocytocine pour un petit peu aider le travail.
D'accord.
Mais sinon, le travail se lançait très bien tout seul. Et du coup, j'ai accouché 10 heures plus tard.
D'accord. Et donc, tu as accouché par voie basse.
Par voie basse. D'un accouchement que je n'aurais jamais espéré. C'est-à-dire, j'ai eu un accouchement de rêve.
Ah.
Honnêtement, je ne pouvais pas rêver. Enfin, un accouchement comme ça, je n'y aurais même pas pensé pour un. Donc, ouais.
Mais quand tu dis accouchement de rêve, c'est-à-dire
C'est-à-dire que tout s'est bien passé. Donc, du fait qu'ils me déclenchent, du coup, ils m'ont posé la péridurale tout de suite.
D'accord.
Donc, les contractions violentes, je ne les ai pas senties.
Oui.
Donc, je sentais le travail parce que, du moins dans l'hôpital dans lequel j'ai accouché, ils ne te mettent pas des péridurales
surdosées.
Des doses de cheval, voilà. Etc. Après, j'avais la pipette, en fait, pour doser. Dès que je sentais trop les contractions, je pouvais me renvoyer un peu de péridurale, etc. Mais ils partent du principe plutôt qu'ils veulent que les mamans se sentent, en fait, ce qui se passe. Enlèvent la douleur, mais ressentent, en fait, ce qui se passe.
D'accord.
Et puis, si tu veux, moi, on m'avait préparé depuis le début de la grossesse à l'éventualité d'une césarienne, à me dire qu'il y en avait peut-être un qui pourrait sortir par voie basse, mais l'autre pas, à tout le côté médicalisé de l'accouchement de gémellaire, puisque faut se dire que c'est pas du tout intime hein, comme accouchement. Hein. Tu as deux gynécos, tu as deux sages-femmes, tu as deux anesthésistes. Enfin, voilà, tout est en double, forcément, pour chaque bébé. Donc, en fait, tu sais que dans ta salle d'accouchement, il va y avoir…
Voilà, tu n'es pas toute seule, quoi.
Voilà. Mais bon, moi, on te prépare psychologiquement là-dessus, etc. Puis moi, ce n'était pas quelque chose qui me posait un problème. Mm-hmm. Parce qu'en fait, l'accouchement en soi, pour moi, ce n'est pas un moment important.
Oui.
Enfin, voilà, c'est le moment de la fin de la grossesse. Mm-hmm. Mais bon, moi, je n'ai jamais sacralisé l'accouchement, si tu veux. Je me suis dit, bah, si ça doit finir en césarienne, bah, ça finira en césarienne. Si ça doit finir avec des outils, bah, ça finira avec des outils. Enfin, voilà, j'ai jamais…
Ouais, tu fais vraiment confiance au corps médical.
Voilà, là-dessus. Exactement. Et puis, je me dis, de toute façon, ça se passera en fait de la manière dont ça doit se passer. Donc, ça ne sert à rien d'idéaliser quelque chose qui, au final, ne se réalisera pas, quoi. Je me dis, je prenais les choses vraiment comme elles venaient.
D'accord.
Et puis, il s'avère qu'en fait, les contractions que je ressentais ont été hyper efficaces et le travail s'est fait super vite. Mm-hmm. Et puis, ils sont nés en 4 poussées chacun.
D'accord. Ah oui, effectivement.
Voilà, Malo a glissé, si tu veux, jusqu'au bout tranquillement.
D'accord.
Et puis, Noé qui est arrivé en deuxième, donc ils ont quand même percé la poche des os de Noé.
Oui.
Et puis, leur crainte, en fait, c'était que Noé, ayant toute la place, se retourne. Parce que moi, j'avais aussi l'avantage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, que les deux soient tête en bas.
Ah oui.
Mais si tu veux, pour eux, le plus important, c'est le premier à sortir, qu'il ait la tête en bas. Mais que le deuxième, après, peu importe la position qu'ils aient, parce qu'ils m'avaient expliqué, s'il est en siège, ils peuvent bien l'attraper, ils l'attrapent par les jambes, mais en fait,
ils le sortent.
Ils le sortent, quoi. Donc voilà, sauf que là en fait il avait la tête en bas et puis il a pas fait la java dans mon ventre, il a pris le chemin de la sortie et puis
il a suivi son frère.
Voilà, exactement, il s'est dit, ah, il y a de la lumière, on va sortir. Et ce qui fait qu'ils ont 8 minutes d'écart.
D'accord.
Donc c'est rien, enfin ça a été,
ah,
ça
oui,
a été
super, c'est rapide. C'est rapide, c'est clair. Waouh, ok.
Et puis, comme tout s'est bien passé, en fait, toutes les équipes étaient contentes du fait que tout se soit bien passé. Ouais. Et je me souviens de la gynéco qui était là, qui m'a accouchée et qui m'a dit, dis donc, si tous les accouchements qu'on avait de jumeaux pouvaient se passer comme le vôtre, c'est
pas cool, quoi. Écoute, c'est chouette, chouette.
Non, honnêtement, je n'imaginais pas ça parce que, du coup, j'étais beaucoup moins fatiguée.
Oui.
Et ayant vécu un accouchement quand même de 27 heures pour Tom. Oh,
donc là, t'es passée…
Où j'étais épuisée à la fin, mais vraiment épuisée, épuisée. Là, du coup, c'était tout l'inverse, quoi. Quand ils m'ont posé sur moi, c'était juste…
Là, tu pouvais vraiment en profiter, quoi. Tu étais là.
Oui, voilà. Je pouvais vraiment apprécier ce moment-là et puis me dire que je l'avais fait, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça.
Dire, en fait, tu as…
On est passé de l'intuition à la réalité, là. Tu te rends compte?
Exactement. Exactement. Et puis, en plus, ils avaient deux bons poids parce que Noé faisait 3,070 kg.
Ah ouais.
Et Malo, il faisait 2,7 kg.
Ben oui, donc en fait, des poids…
Des poids de bébé tout seul, quoi.
C'est ça. Eh bien.
Mais ouais, ça a été juste génial, quoi. Mm-hmm. Génial. Et forcément, ça a conditionné aussi la suite, quoi.
Oui,
la suite de me dire, physiquement parlant… Je n'étais pas fatiguée, j'avais pas mal partout. Enfin, si, un peu, mais ça, c'était plus dû à la péridurale, ce genre de choses. Mm-hmm. Tu récupères quand même vachement plus vite quand tu as un accouchement qui est simple que quand tu as eu un accouchement compliqué.
Un peu plus compliqué, oui, c'est sûr.
Donc du coup, voilà.
Alors, l'arrivée de ces deux petits bouts à la maison avec Tom, ton aîné, comment est-ce qu'il a réagi?
Au début, ça a été un petit peu bizarre parce qu'il s'en fichait complètement.
Ouais, après, il est petit encore.
Voilà, donc il s'en fichait un peu. Après, la deuxième phase, ça a été faut les ramener à l'hôpital. Voilà, ils étaient beaux, on les a vus, c'est bien, mais il faut les ramener quand même à l'hôpital. Et puis ensuite, on a eu la phase où bah, finalement, il les a apprivoisés dans son quotidien, il les a
Oui.
apprivoisés dans son environnement, et aujourd'hui, il ne veut plus qu'on les ramène à l'hôpital.
Ah.
Même s'il pleure beaucoup pour lui, mais il ne veut pas qu'on les ramène à l'hôpital. Donc c'est plutôt positif. Après, maintenant, il a hâte de jouer avec eux. Ils sont encore un peu petits, mais on sait que ça va venir d'ici quelques mois. Ils pourront un peu plus interagir tous ensemble. Et puis dans le futur, ils seront comme cul et chemise, quoi.
C'est ça, c'est
Enfin, on
ça.
espère, enfin, tout pour, du moins.
Bah oui. Trois frangins.
Ouais.
C'est chouette. Non mais
Ils font des
franchement, ça promet pour
bébés
l'avenir.
ensemble. Ah oui, on sait qu'on va avoir quelques frayeurs et quelques parties de rigolade, mais après on se dit si on arrive à faire en sorte que finalement ce soit pas Tom et les jumeaux, mais que ce soit limite, tu vois, un peu comme des triplés,
Oui,
bah c'est qu'on aura réussi, quoi.
c'est
On
ça.
a réussi notre boulot et de nous dire bah Tom il sera pas mis à l'écart. Parce que moi, c'était ma grosse crainte aussi durant ma grossesse, et ça l'est toujours, hein, parce qu'ils sont petits, bah, que ce soit un et deux, tu vois.
Oui, tout à fait.
Que ce soit toujours, bah, Tom, il soit toujours mis de côté, parce qu'il est tout seul.
Mais après, ça, quelque
Après,
part,
aujourd'hui.
ça va être à vous aussi de pouvoir faire en sorte que ce soit vraiment voilà, une fraternité vraiment des trois plutôt que des deux. Après, c'est vrai qu'on dit que les jumeaux sont souvent très fusionnels entre eux, ont des, voilà, et peut-être que ça sera le cas, mais que pour autant, ça n'enlève pas bah, ce truc-là bah, pour Tom, quoi, qu'il soit. En plus, c'est le grand frère, donc normalement,
Ouais,
ça
exact.
devrait.
Après, moi, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus et j'ai lu beaucoup d'études de psychologues, que ce soit en France ou en Angleterre et aux États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, les grossesses géninaires, c'est un truc sacré, quoi. C'est vraiment, quand tu as des jumeaux, limite, tu as réussi ta vie, quoi. Et en fait, il disait beaucoup que le fait que les jumeaux soient fusionnels, etc., ça vient beaucoup, en fait, des parents.
Ah,
Ça vient
d'accord.
beaucoup des parents petits, parce que, en fait, les parents ont entretenu le lien, enfin, le fait qu'ils soient jumeaux. Tu vois, c'est peut-être les parents qui les habillent pareil,
Pareil, ouais, ça va.
qui parlent vraiment toujours d'eux comme une entité entière, plutôt que de parler d'eux
Une
en deux
personne,
individus. Enfin, voilà, ils disent en tout cas, enfin, des études que j'ai lues, que ça venait beaucoup, en fait, des parents.
D'accord.
Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. On verra comment nous, on a pris le parti de faire en sorte que ce soit deux individus à part
À
entière.
part entière, oui, c'est ça.
Ouais, on ne veut pas les habiller pareil, on ne les appelle jamais les jumeaux. Voilà, donc c'est notre façon de concevoir, en fait, notre vie de famille aujourd'hui. Après, est-ce que ça empêchera le fait qu'ils soient fusionnels ou pas? Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et s'ils le seront, bah, ils le seront. Et
Oui,
ça
voilà.
n'empêchera peut-être pas le fait qu'ils soient très proches de Tom. Ou au contraire, bah, Tom sera mis de côté. Et voilà, après, je pense, quand ils grandiront, on le verra et on
Et
se
après,
composera
bon,
avec et on fera en
voilà.
sorte
Bon, en tout cas,
de gérer à ce moment-là, quoi.
c'est déjà franchement bien de se documenter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le commun des mortels, même s'il y a de plus en plus
Là, c'est ça.
de jumeaux. Donc c'est déjà bien d'avoir pris parti de se documenter là-dessus pour pouvoir oui, avoir bah, toutes les informations possibles dessus. Et puis peut-être pouvoir les
Bah,
comprendre aussi après, quoi, parce que en fonction de.
exactement. C'est ça,
Et
exactement, parce que.
on n'a pas parlé. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Non, vas-y, vas-y.
Non, je disais
Excuse-moi.
donc, alors Teddy, on n'en a pas parlé. Comment il a accueilli du coup bah, ses bébés, l'organisation,
De la plus belle des façons.
la.
C'est-à-dire que Teddy, c'est quelqu'un qui. Dès que je l'ai rencontré, j'ai toujours su que ce serait un super papa. Parce qu'il a toujours eu ce côté paternel vachement développé. Il a toujours été très sensible. aux enfants qui pouvaient nous entourer, aux bébés, etc. Il n'était pas du tout craintif là-dessus. Et si tu veux, quand j'ai su que c'était lui, j'ai tout de suite su que cette partie-là, je ne me ferais jamais de soucis. Et au contraire, dans notre vie de parents, c'est plutôt lui qui me fait relativiser. Tu vois, comme quand j'ai su qu'il y en avait deux et qu'il disait, oh là là, mais ça va être, comment on va s'en sortir et tout. C'est lui qui me disait, mais t'inquiète, peut-être on ne s'en sortira pas.
Oui.
Et puis, c'est comme ça, c'est la vie. Mmh. Et un jour, on sortira la tête de l'eau. Et tu vois, il a ce côté vachement, il prend beaucoup de distance avec les choses. Mmh. Il n'est jamais stressé, il n'est jamais. Il voit toujours les choses du bon côté, en fait.
Oui.
Et ça fait beaucoup de bien parce que moi, dans mes moments de panique, ça m'apaise. Mmh. Du coup, ça me fait prendre du recul, ça me fait relativiser. Mmh. Et du coup, je pense que si je relativise sur beaucoup de choses aujourd'hui, c'est grâce à lui.
Oui, c'est beau ce que tu dis.
Et, non, mais c'est vrai.
Ouais.
Et vraiment, on est une équipe, en fait. Tu vois, au-delà d'être
un couple,
etc. On est vraiment une équipe et je pense qu'on s'équilibre beaucoup.
Mmh.
Et ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi terrible qu'on le pensait.
D'accord, et tu vois.
Je pense que c'est. Ouais, alors après, je sais pas si c'est parce que notre capacité d'adaptation est plus importante que l'autre, parce que notre seuil de tolérance est plus important. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai lu beaucoup de témoignages de gens qui étaient dans la même configuration que nous. Hein, de gens qui avaient déjà des enfants avant. Parce qu'on dit souvent que c'est plus facile quand on a déjà un enfant d'avoir des jumeaux ensuite que en
plutôt que la première fois.
Mmh. Voilà. Et beaucoup de gens disaient que c'était terrible. J'ai lu des mamans qui ont fait des burn-out parentales, etc. Ouais. Ce que je comprends totalement. Hein. Je remets pas du tout en cause leur enfant. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je peux dire... Et pourtant, j'ai l'impression que je suis dans la phase la plus compliquée dans le sens où... voilà, c'est là où ils mangent beaucoup, ils réclament beaucoup, ils ne peuvent pas parler, ils peuvent pas. Donc, j'estime pour moi que c'est la phase la plus compliquée. Et en fait, non, c'est pas si difficile que ça, quoi. C'est pas si difficile que ça. Et je pense que quand on ne se met pas de pression, en fait, les choses, elles se passent.
Elles se font. Je suis d'accord avec
après,
toi.
J'ai de la chance d'avoir des enfants faciles. Hein. Donc j'ai pas de problème d'RGO, de colique, etc.
Oui.
Ça, là-dessus, j'ai eu de la chance. Ils font déjà leur nuit, ça aussi.
C'est vrai, oh, wow. Et les deux en plus.
Ouais, les deux. Ils ont le même rythme, donc voilà, je m'estime très chanceuse là-dessus.
Oui.
Après, je ne peux pas dire, est-ce que ça vient du fait qu'on n'est pas stressé? Est-ce que ça vient du fait que c'est comme ça que
certainement aussi. Hein.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon médecin m'a souvent dit, déjà pour Tom, elle m'avait dit ça, que les parents zen font des enfants zen.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si c'est la réalité. Mais en tout cas, nous, dans notre cas, ça l'est.
Moi, je pense que ça peut jouer, hein, parce que tu sais, on dit que les enfants ressentent beaucoup les choses. Et c'est vrai que si ils ressentent que vous êtes vraiment zen, en tout cas là, forcément, ça va en faire aussi des bébés zen. Donc moi, je suis totalement d'accord.
Peut-être, après, je sais pas. On s'estime, en tout cas, moi, je m'estime chanceuse parce que j'ai beaucoup de copines qui ont eu des enfants, qui n'ont pas fait leur nuit avant un an et demi, et je les voyais avec des cernes jusqu'au menton. Et vraiment craquer complètement parce que l'angoisse, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent et ça, je veux dire, je les comprends totalement. Mais aujourd'hui, nous, c'est pas notre cas.
Oui.
C'est pas notre cas, donc moi je m'estime là-dessus chanceuse, quoi. Après, c'est pas dit que là ils font leur nuit, c'est pas dit que dans quelques semaines ce soit plus le cas.
Ouais.
Enfin, ce soit toujours le cas plutôt. Mais en tout cas, aujourd'hui, je prends ce qu'il y a à prendre.
C'est ça, il faut prendre ce qu'il y a à prendre.
Sommeil.
C'est ça.
Et voilà.
Et en profiter au maximum. Ok.
Exactement.
Ok, et au niveau de leur repas, comment ça se passe? Là, j'imagine qu'ils sont encore au lait. Est-ce que tu les allaites ou est-ce qu'ils sont plutôt au biberon?
Non, alors moi, j'ai pour Tom comme pour eux, je m'étais renseignée sur l'allaitement. C'est pas quelque chose que je me sentais de faire. Voilà, donc j'ai fait le choix de pas le faire pour Tom et encore moins pour des jumeaux parce que c'est
Au
très
niveau
prenant.
organisation, bah c'est ça.
Ouais, et organisation, je me suis dit, j'y arriverai pas. Puis vraiment, je suis admirative des femmes qui le font, hein, mais j'avais l'impression que l'allaitement, c'était pas quelque chose qui était fait pour moi.
Pour toi, ok.
Donc, voilà, je me suis renseignée quand même sur le sujet pour ne pas avoir de
Ouais.
regrets, en fait. J'ai discuté avec des sages-femmes pro-allaitement qui m'ont même parfois essayé de me retourner un peu le cerveau. Voilà. Mais je me suis dit, j'ai analysé la situation, je me suis très bien renseignée dessus. Donc, je sais tout ce que j'ai à savoir. Mais vraiment, au fond de moi, je ne me sentais pas de le faire.
Bah,
Et
j'étais un peu comme toi, hein. Moi, je ne me suis jamais sentie de le faire, jamais. J'ai fini par le faire quand même, et c'est vrai qu'avec la réflexion, je me demande si on ne m'y a pas forcé quelque part la première fois. Je me pose encore la question aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vécu de la même façon, de la même manière, ouais, pour les premiers que pour la dernière, tu vois. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas se forcer à faire, c'est vrai. Faut vraiment.
Non, puis moi je pense que je pars toujours du principe où que ce soit tout dans la vie, quand tu n'es pas convaincu que c'est ce qu'il faut pour toi, bah, je trouve que ça sert à rien de le faire et ça s'applique dans énormément de situations de soi. Et moi, c'était quelque chose où vraiment c'était pas une révélation et je ne me suis pas dit bah, si tu le fais pas, tu vas regretter ou si tu le fais pas. Ça va pas être comme il faut, voilà. Et tu vois, aujourd'hui, avec le recul, j'ai aucun regret, hein, que ce soit pour Tom ou pour les filles.
C'est ça. Et
Voilà, je
alors,
suis
au
dans
niveau
un vrai bon.
de l'organisation, justement, bah, des biberons, comment tu fais quand Teddy n'est pas là? Il mange en
Bah,
même
écoute,
temps?
alors, ils mangent en même temps, enfin, ils mangent pas en même temps, ils mangent en décalé. Au départ, j'ai essayé de leur donner à manger en même temps, je les mettais dans leur chaise haute et je leur donnais à. Mais je trouvais ça hyper impersonnel, quoi. Tu vois, parce que du coup, tu n'as plus ce côté où tu es avec ton bébé, tu l'as dans les bras, tu lui donnes le sein au biberon, tu vois, c'est un petit moment sympa, tu lui fais un câlin en même temps. Enfin, quand tu les mets chacun dans leur chaise haute et que tu les donnes à manger en même temps, tu perds tout ce côté-là.
C'est
Et moi,
ça.
je ne voulais pas perdre ça, tu vois. Et je me suis dit, bon, allez, si je les prends l'un après l'autre, au moins, bah, juste un instant, ils ont leur moment, eux. Moi aussi, c'est juste
Oui,
avec un seul, tu vois.
c'est ça.
Et en fait, ça marche très bien comme ça. Ça marche très bien comme ça. Et même eux ont pris un rythme comme ça. Donc, ils sont décalés à peu près sur les biberons d'une demi-heure, quoi. Une demi-heure, 40 minutes. Et puis, par contre, ils sont réglés ensemble quand papa est là, quoi. Comme ça, bah, chacun a le sien,
Chacun
quoi.
prend un
Voilà.
parent et puis voilà, et profite.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ok. Bah écoute, très bien. Bah, je pense qu'on arrive bientôt à la fin, à la fin de, bah, de notre épisode. Moi, je voulais savoir, bah écoute, on va dire en dernière partie, bah, savoir en fait bah, ce que tu tirais comme leçon bah, de cette expérience que tu as vécue, qui est quand même assez particulière, hein, faut le dire.
Enfin, je dirais que c'est pas la fin du monde. C'est loin en fait d'être la fin du monde. C'est le début d'autre chose, surtout quand on a conceptualisé sa vie et qu'au final, c'est pas comme ça. Et encore une fois, rien n'arrive au hasard. Et je suis persuadée en fait que quand quelque chose comme ça nous tombe dessus, déjà, c'est la plus belle des choses parce que c'est rare, du moins quand c'est pas une grossesse médicalement assistée, c'est rare. Donc comme c'est rare, je dirais pas ça la rend plus belle, mais ça la rend plus particulière, on va dire. Et puis en fait, si ça vous arrive, c'est que c'est votre chemin de vie.
C'est
Donc
ça.
faut le prendre de la plus belle des manières et se dire en fait que tout ce qui nous arrive dans la vie en règle générale, c'est parce qu'on est capable de le faire ou c'est parce qu'on est capable de le surmonter que ça nous arrive.
Je suis complètement d'accord
enfin, moi,
avec toi.
Je prends comme ça.
Rien n'arrive au hasard. En fait,
exactement, c'est peut-être un peu spirituel hein, ce que je dis, mais c'est ça. Et en fait, il y a des moments durs, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Il y a des jours aussi où, comme tout le monde, je suis fatiguée ou je n'ai pas envie, ou, etc. Hein. Je suis comme tout le monde. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, je me dis, finalement, ma vie, elle devait être comme ça. Donc, en fait, je la prends comme ça et du coup, je prends ça comme un cadeau, quoi.
Ouais.
Mes enfants, c'est vraiment la chose que je me dis. Et en, d'autant plus qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui ont du mal à avoir des enfants, malheureusement. Donc, je me dis, en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, moi, la vie, elle m'a fait 3 merveilleux cadeaux. Mmh. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est juste un cadeau.
Ouais. Profiter de ce cadeau-là et en prendre conscience.
Exactement. et ne pas paniquer parce qu'on est capable de surmonter ça. Et le positif absorbe le négatif.
Tout à fait. Mmh. Eh bien, écoute, c'est une belle phrase de la fin. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce partage surtout.
Merci à toi.
C'est ça, parce que c'est pas forcément un sujet. Et pourtant, des jumeaux, il y en a, mais vraiment beaucoup dans ma famille. J'ai même vu à plusieurs reprises que j'allais en avoir.
Ah oui.
Ouais, parce que ma grand-mère paternelle est jumelle. Et voilà, enfin dans la famille, on a vraiment énormément de jumeaux. Et du coup, j'ai toujours pensé que finalement j'en aurais. Et puis bon, en fait, j'en ai pas eu. Donc j'ai toujours voulu en fait en savoir un peu plus. Enfin voilà, sur ce que ressentent les mamans. Qui ont vécu cela et c'est vrai que écoute toi ton témoignage en tout cas je le trouve vraiment vraiment beau et je dirais que je suis d'accord avec ça, il faut suivre son intuition parce que l'intuition maternelle alors là c'est pas que dans les livres hein. C'est sûr.
Il faut s'écouter mais je pense que c'est comme tout, c'est pas que l'intuition maternelle, c'est son intuition tout court.
Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Marine.
Non, mais merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi réagir en nous laissant un petit commentaire et partager autour de vous. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite dès à présent à me suivre sur ma page Instagram dédiée au podcast @moine.na. Et si vous voulez continuer de lire mes articles sur le blog, je vous invite à le visiter au www.moina.com. Enfin, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante moina.leblog@gmail.com.